Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Yves et c'est l'heure de l'interview sur RDWA. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas pour nous annoncer une manifestation qui va avoir lieu demain, mardi 16 janvier, à partir de 17h30. Ça sera une manifestation au flambeau à Die, avec ce départ donc du lycée vers la sous-préfecture. Alors, c'est une manifestation qui dit non à la loi raciste contre l'immigration. Et donc, Nicolas, ce désir de vous exprimer sur ce sujet.
Bonjour à tout le monde et merci de me recevoir. Bonjour Yves. Oui, effectivement, cette loi immigration, c'est un long marathon. Macron avait essayé de nous imposer un texte avant les événements du Covid, donc en 2019. Avec le Covid, il y a eu des manifestations et tout a été gelé. Et puis ça revient là assez récemment à l'Assemblée nationale. Il y a eu une motion de rejet qui a été présentée par le parti écologiste qui a obtenu la majorité des suffrages. Et donc, la loi aurait pu s'éteindre d'elle-même. Et la proposition qui a été retenue, c'était de créer une commission paritaire mixte entre des députés et des sénateurs qui se sont réunis très, très rapidement pour reproposer un texte qui, cette fois-ci, a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. En cumulant les voix de Renaissance Macron, les voix des Républicains et, plus grave encore, les voix du Front National, du Rassemblement National. Parce que cette loi, il faut le dire, elle convient à 100% à l'idéologie du Front National concernant l'immigration. Et c'est quelque chose de très inquiétant pour nous.
Une loi actuellement en cours de consultation, de contrôle auprès de la Cour constitutionnelle. On aura les résultats très prochainement, je crois.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, elle a été votée à l'Assemblée nationale et elle doit être validée par le Conseil constitutionnel à la fin du mois, plus précisément le 25. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les associations, les citoyens sont vent debout pour mettre la pression sur le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, il est là pour vérifier que la loi n'est pas en désaccord avec la Constitution, avec des aspects liés aux droits humains, etc. Alors, il est évident qu'il devrait y avoir énormément d'articles qui seraient supprimés, comme par exemple le droit du sol, hein, c'est-à-dire que un étranger régularisé en France qui souhaite faire venir ses enfants mineurs et son conjoint, aujourd'hui, ça c'est remis en cause. Et donc là, la loi immigration remet cet article en cause, sachant que la Constitution dit autre chose. Donc vous voyez, là, il y a des antagonismes qui vont devoir trancher. Alors je dis, ça devrait être réduit au moins sur certaines conditions, mais la politique étant ce qu'elle est, on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'avoir le texte qui soit approuvé par le Conseil constitutionnel sans aucune remarque.
À propos de cette consultation, effectivement, au sein du Conseil constitutionnel, le président Macron lui-même avait admis qu'il y avait certaines parties du texte qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente, en quelque sorte, ce passage en force par les instances législatives avec une méconnaissance certaine de la Constitution, semble-t-il?
Ben, on dirait que les gens n'ont plus de boussole, quoi. Hein. Et c'est quand même un comble pour le chef de l'État de proposer un texte via sa majorité, via les élus LR au Sénat. Et puis, en fin de compte, de nous dire, on est bien conscient qu'il y a des éléments qui seront, qui sont pas constitutionnels. Enfin, on est dans le grand n'importe quoi. Alors là, je sais pas l'objectif. Est-ce qu'on est dans l'idée de flatter les électeurs du Front National au centre et à droite en disant, voyez, hein, on prend bien en cause vos revendications. C'est pas la peine de voter pour le Rassemblement National. Vous votez pour nous, c'est pas plus mal. Faut pas oublier qu'on a une échéance électorale importante là dans 6 mois avec les élections européennes. Voilà, on va pas faire de la politique, on n'est pas là pour ça, mais le remaniement ministériel là qu'on a eu la semaine dernière, il est pas étranger à tout ça. Voilà, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Par exemple, il y a sur la régularisation des travailleurs, on dit aussi que le travailleur sans papier en situation irrégulière doit être en capacité de produire au moins 8 fiches de paye pour démontrer, s'il le fallait, qu'il est en capacité d'avoir un travail. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont en situation irrégulière n'ont pas le droit de travailler en France. Donc, voilà, la loi dit vous n'avez pas le droit de travailler, mais si vous voulez être régularisé, c'est bien d'avoir 8 fiches de paye à produire au moment de la régularisation. Donc, on est dans ce flou artistique où finalement, les choses interdites sont autorisées, les choses autorisées sont interdites. Enfin, c'est assez compliqué. Et on espère très très fortement que le Conseil constitutionnel va remettre un peu d'ordre dans tout ça.
Ce qu'on souhaiterait vraiment. Il y a aussi cet impact sur cette loi. Quelle serait-elle sur notre territoire? On sait qu'il y a beaucoup de personnes accueillies. Est-ce qu'il y aura peut-être des problèmes à venir?
Oui, moi je le Diwa est une terre d'accueil, hein, historiquement, qui le prouve encore aujourd'hui. On a localement sur place plusieurs associations qui s'occupent d'accueil d'exilés, d'accueil de réfugiés. Je pense au Radar qui s'occupe de réfugiés politiques. Je pense à la Parallèle qui fait un magnifique travail depuis maintenant 6 ou 7 ans. Je pense aussi à la Tram qui est une nouvelle association qui accueille aussi des exilés et qui cherchent à obtenir un statut d'OACAS pour pouvoir proposer aux compagnons de travailler dans un cadre légal, un petit peu comme les compagnons d'Emmaüs. Voilà, et ces gens, et puis là je parle de 3 associations, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, qui gravitent tout autour. Là, on peut estimer, je ne sais pas, entre 60 et 80 personnes ici dans le Diwa, de gens qui sont en cours d'obtention de papier, qu'ont pour les plus chanceux juste un titre de séjour avec une validité limitée, et d'autres et qui ont rien de tout ça et qui à tout moment risquent de se faire rafler et placer en centre de rétention dans le cadre d'une expulsion retour au pays. Voilà, c'est la situation va pour ces gens-là devenir de plus en plus difficile, ça c'est clair.
D'ailleurs, est-ce que c'est une loi constitutionnelle qui permet justement une promulgation de loi contre l'immigration qui puisse mettre des personnes en situation régulière actuellement en situation irrégulière pour la suite ?
Alors, les gens qui sont en situation... par exemple, les gens qui sont en situation irrégulière aujourd'hui peuvent, parce que les délais d'obtention des papiers ont été rallongés, les conditions sont devenues de plus en plus difficiles, ils peuvent se retrouver du jour au lendemain dans une situation irrégulière. Hein, quand on accorde à un étranger une carte de séjour de 1 an, un titre de séjour de 1 an, au bout de 1 an, il se retrouve à la case départ. Et on espère tous que pendant l'année où il avait un titre de séjour, il en a profité pour améliorer ses conditions d'intégration et de régularisation à travers le travail, à travers une déposition vis-à-vis d'un avocat, etc. quoi. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Vous voyez par exemple ce qui se passe au niveau des frontières à Briançon. À Briançon, on a des gens qui viennent d'Italie et qui ont traversé l'Afrique, qui viennent de Libye, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui ont traversé une partie de l'Afrique, qui ont traversé l'Italie et qui viennent pour demander l'asile en France. En France, ce sont les préfectures qui gère les demandes d'asile. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau du poste frontière à Briançon, dans la montagne ? Eh bien, les gens qui souhaitent passer pour demander l'asile en France, eh bien, ils sont interceptés par la police des frontières et renvoyés en Italie, ce qui est parfaitement illégal. La France a été pointée du doigt à plusieurs reprises. L'État français ne respecte pas les engagements des conventions de Genève, entre autres, qui donnent la possibilité à un étranger qui le souhaite de venir déposer une demande officielle en préfecture, demande qui sera traitée, demande qui sera acceptée, qui sera refusée, qui sera soumise à conditions. N'empêche, c'est la loi. Et aujourd'hui, ces gens-là, on leur laisse même pas la possibilité de franchir le seuil de la préfecture. On les attrape dans la montagne et on les renvoie en Italie. Voilà, ça c'est l'immigration vue côté France.
Est-ce que il y a une catégorie particulière de populations immigrantes qui sont visées dans cette loi plus que d'autres ?
Alors, quand on demande l'asile en France, selon le pays d'origine, on n'est pas traité de la même façon. La France établit un classement des pays. Il y a les pays qui sont en guerre. Voilà, il y a les pays où ont lieu, par exemple, un génocide, comme aujourd'hui à Gaza, enfin, même si le sujet n'est pas là. Et ces gens-là ont un niveau de prise en charge qui est différent d'un Africain, par exemple, de Côte d'Ivoire, où on considère que, il est dans un pays politiquement relativement stable et il n'a aucune raison de venir en France demander l'asile. Donc ces gens-là, il y a des pays, par exemple l'Algérie ou le Maroc. Aujourd'hui, les ressortissants algériens qui demandent la régularisation en France, elle leur est systématiquement refusée, dans la mesure où on considère que l'Algérie ne fait pas partie des pays en guerre, pays à risque. Donc, tout le monde n'est pas égal devant la loi selon son pays de provenance. On l'a vu très fortement il y a quelques mois avec la guerre en Ukraine, où finalement il y a eu l'État a mis non seulement la main à la poche, mais a fait marcher tous ses réseaux institutionnels dans les départements, dans les régions, pour accueillir des milliers d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Et donc on est très contents. On est très contents pour les Ukrainiens qu'on a pu accueillir dans de bonnes conditions. Mais ce qu'on a envie de dire à nos représentants des institutions, vous voyez, vous êtes capables de le faire pour les Ukrainiens. Pourquoi vous le faites pas pour les subsahariens, pour les Syriens, pour tous ces gens qui fuient des pays où les conditions de vie sont plus possibles pour eux, que ce soit lié à la guerre, que ce soit lié au changement climatique, parce que il y a de l'érosion des terres, parce qu'il y a des vagues en mer qui passent au-dessus des côtes et qui rendent les terres infertiles, etc., etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, le problème qu'on a aujourd'hui en France, on n'a pas une crise migratoire inquiétante, comme le diront certains. Moi, j'entends des chiffres qui, malheureusement, sont très souvent pas contredits par les journalistes sur les plateaux. Il y a des gens qui parlent d'une 500 000 entrées par an en France. C'est de la science-fiction. On n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Il y a des gros contingent de gens qui arrivent en France. Les plus importants, ce sont les étudiants qui viennent passer 3 ans, 4 ans, faire leurs études supérieures en France et qui repartent après. Donc il faut sortir de ce fantasme-là lié à un déferlement. On n'a pas une crise de la migration, on a une crise de l'accueil. Oui, la France n'est pas à la hauteur en termes d'accueil. On est en dessous de zéro. Et toutes les petites associations dont je vous parle, qui sont organisatrices donc de ce rassemblement demain, Elles sont là pour pallier au dysfonctionnement de l'État, qui est complètement défaillant sur la prise en charge de ces populations. Clairement, on est dans l'inhumanité à tous les étages.
Je reviens un peu sur les pays que j'ai cités tout à l'heure, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, qui sont frappés par cette vague d'immigration. Et donc, il y a ce soulèvement de la part de l'extrême droite en réaction. Est-ce que parmi ces pays, est-ce qu'il existe des structures telles que la vôtre et avec qui vous correspondez, ou peut-être essayer de former peut-être une force plus conséquente ?
Oui, moi je pense que, alors, on n'est pas forcément en lien avec tout le monde. On est en lien avec des grosses structures nationales. Vous voyez, par exemple, nous, dans le DIWA, on a des correspondants de la CIMADE qui sont très, très pointus sur tout ce qui est accès à la régularisation à travers toutes les contraintes administratives. Voilà, on a accès à ces gens-là et qui sont proches de nous et qui nous apportent un joli soutien. On est en lien, évidemment, avec toutes ces associations qui portent des plaidoyers au niveau national pour essayer de faire évoluer positivement les choses. Maintenant, bon, ce qui se passe en Hollande ou ce qui se passe en France ou en Espagne ou en Amérique du Sud dans certains pays aujourd'hui, il y a les vieux démons qui resurgissent. Hein. L'histoire était un éternel recommencement. Ça fait un peu froid dans le dos, mais il y a une crise. Alors la crise politiquement elle peut s'expliquer de différentes façons, mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Eh bien la machine est un peu crispée, les taux de rendement du capitalisme sont pas au rendez-vous, les gens ont des difficultés sur certains métiers parce qu'on n'a pas les compétences, parce que tout va très vite, et quelquefois, eh bien politiquement, la réponse qui peut sembler la plus simple ou la plus simpliste, je dirais même, c'est de se dire, ben voilà, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, ben pourquoi ne pas essayer l'extrême droite? Un pouvoir fort, des libertés, un État fort, oppresseur, je dirais, des libertés, des contraintes liberticides, et puis finalement, le premier fusible, ben c'est l'étranger, voilà, c'est le noir, c'est l'arabe qui vient prendre le travail du blanc, qui vient prendre le travail du français, du hollandais. Voilà, c'est des vieilles recettes et malheureusement ça fonctionne toujours. Là, je dirais que le terreau sur lequel tout ça pousse, c'est la misère sociale, c'est l'individualisme, c'est le libéralisme qui échoue puisqu'il ne favorise qu'une toute petite élite qui lui en profite très fort et les petites gens aujourd'hui, même les classes moyennes, classes populaires, classes moyennes dépérissent et puis s'inquiètent à savoir comment est-ce que, dans quelles conditions de vie je vais pouvoir élever mes enfants, est-ce que je vais pouvoir payer des études, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout avant la retraite pour finaliser l'emprunt de la maison, etc. Et donc on se tourne vers des gens qui font des promesses électoralistes simplistes et qui amènent le chaos et la désolation, ça c'est certain, ça s'est vu, ça se répète, mais voilà, on a l'impression que les gens n'ont pas de mémoire quelquefois.
Et puis il y a le mensonge qui porte tout ça. Demain, donc, manifestation organisée devant le lycée à 17h30. Est-ce qu'on peut parler d'un engagement évident des jeunes aussi sur cette prise de conscience? Est-ce qu'il y a aussi, pareillement, au niveau des adultes ou des personnes plus âgées, une prise de conscience sur ce sujet?
Alors, on l'espère, on en saura plus demain soir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à peu près un mois, quand la loi a été votée à l'Assemblée nationale suite à la commission paritaire mixte, les jeunes du lycée ont été les premiers à se manifester à travers un blocage, un sitting. Ils avaient prise de parole, affiches, ils avaient invité les associations à venir les soutenir. La presse était présente. On a eu la chance d'avoir Marie Pochon, notre députée NUPES, qui est venue leur apporter leur soutien. Et les jeunes, moi je me rappelle, il y en a un qui m'a dit, bah oui, vous, les personnes, les vieux en gros, les vieux, si vous bougez pas, bah c'est à nous à le faire, c'est pas possible, ce sont des humains comme nous, on peut pas les traiter de cette façon-là. Enfin, il y avait beaucoup d'émotions dans les témoignages qui ont été faits. Et voilà. Et donc là maintenant, il y a le risque que cette loi soit promulguée par le Conseil constitutionnel. Et donc, avec les associations de lycéens, on remet le couvert en essayant de taper encore plus fort, mardi, demain donc, On va faire quelque chose de joyeux, de festif, avec prise de parole pour ceux qui ont des choses à dire. Il y aura sans doute la chorale militante de Die qui viendra faire quelques morceaux. Et puis, on se déplacera jusque la sous-préfecture, la place de la République, en cortège, avec des flambeaux, en criant haut et fort toute notre désapprobation par rapport à cette loi raciste qui met véritablement dans la galère des dizaines de milliers de personnes en France, dont on a besoin, qui participent aujourd'hui à l'effort économique, qui participent à la vie sociale, qui participent au renflouement des caisses sociales, que ce soit, on n'en a pas parlé, hein, les caisses de santé, les caisses de retraite, etc., sans forcément en toucher les fruits.
C'est possible, ça. Ce matin, c'était un sujet d'émission sur France Culture à la matinale, justement l'apport de travail des immigrés et des immigrants sur l'économie française, qui est loin d'être négligeable.
Il est non seulement négligeable, mais quand on regarde assez simplement, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est des chiffres qu'on trouve sur le site de l'INSEE, par exemple, le solde concernant ce que coûtent les étrangers en France et ce qu'ils rapportent, le solde est très largement positif de 1,5 milliard ou 2 milliards par an. Donc, les étrangers qui travaillent en France participent à l'excédent de recettes de nos caisses sociales mutualisées. Il faut le dire parce qu'on entend souvent n'importe quoi par rapport à ça. Et à un moment donné, il faut avoir un esprit pragmatique et s'interroger sur les chiffres et les vrais chiffres et non pas du sensationnel et de l'émotif.
Hier avait eu lieu un premier rendez-vous à Valence. Tu étais présent.
J'étais présent hier à Valence. On a eu la bonne surprise d'être assez nombreux. Donc, je pense que par rapport aux différents rassemblements qu'on a pu faire sur ce sujet dans le passé, on touche aujourd'hui plus de gens qui sont choqués par la brutalité de cette loi, qui sont choqués par son caractère déshumanisé, pour pas dire plus, et qui viennent rejoindre et renforcer les rangs de la manifestation. On était quasiment 500 hier à Valence, un dimanche après-midi en plein hiver, il faisait un peu froid évidemment, et ça a été jovial. Et comme on était nombreux, on est parti en cortège jusque la sous-préfecture. Il y a eu des prises de parole. C'était le rassemblement donc organisé par toutes les associations. Et la semaine prochaine, le 21, il y aura ce même type de rassemblement organisé par les organisations syndicales. Parce que les organisations syndicales qui sont là pour défendre les intérêts des salariés sont aussi partie prenante dans cette histoire, dans la mesure où pour eux, les immigrés, ce sont des salariés. Et donc, à ce titre-là, ils méritent défense, considération et prise en compte comme tous les autres salariés. On a vu récemment, par exemple, des salariés dans le bâtiment qui, sur Paris, j'ai oublié précisément sur quel endroit, mais je crois que c'était du côté de la Seine-Saint-Denis, il y avait des constructions en cours d'infrastructures pour accueillir les Jeux Olympiques et des ouvriers qui sont mis en grève. Voilà, en disant, nous, si on n'est pas régularisé, on arrête de travailler. Et ils ont obtenu la régularisation. Donc, le travail, surtout à 5-6 mois des Jeux Olympiques, c'est un magnifique levier pour obtenir la régularisation de gens qui participent à l'effort économique et qui ont ce levier pour dire, si vous ne régularisez pas, parce que aujourd'hui, c'est l'employeur qui régularise. C'est l'employeur, à la demande de l'employeur, que la préfecture peut régulariser des travailleurs sans papier.
Une autre chose, tout à l'heure, tu parlais du génocide en Palestine. Est-ce qu'il est avéré qu'il y a des actes dits de génocidaires en Palestine actuellement ?
Alors, il y a... Oui, on peut parler de...
Il y a une reconnaissance d'organismes officiels.
On peut parler de génocide, d'une reconnaissance, effectivement, sur ce point-là. Je n'ai plus le nom en tête de ce haut fonctionnaire qui a démissionné de l'ONU et qui parle de génocide et qui dit, moi, je ne veux pas soutenir une organisation qui refuse d'appeler un chat un chat. Oui, on a dépassé les 25 000 personnes mortes là depuis le début de ce massacre.
Depuis 100 jours.
Voilà, il y a un enfant toutes les 10 minutes qui meurt sous les bombes. Il y a, je sais plus, 50 ou 60 ou 70% de la population qui est sur les routes avec des habitations détruites. C'est scandaleux. La France, au moment de l'invasion, de l'attaque terroriste du Hamas, a voté un soutien inconditionnel à Israël. Eh bien, ils n'ont pas été bien inspirés parce que quand on dit soutien inconditionnel, eh ben on dit soutien inconditionnel, et après ça, il faut pas deux mois après venir pleurnicher en disant oui mais les femmes, oui mais les enfants, oui mais là vous allez trop loin. Non, on a voté un soutien inconditionnel. Il fallait pas le faire. C'est sûr que c'était pas une bonne idée de dire ça. Mais pas que la France, hein. Et aujourd'hui, même les États-Unis sont un petit peu sous le choc de la virulence des Israéliens. A finalement essayé peut-être de vider ces terres pour les coloniser comme ils ont fait en Cisjordanie et ailleurs, et chasser définitivement les Palestiniens de ces terres. Enfin, c'est assez horrible ce qui se passe. On avait essayé en son temps de faire quelques rassemblements pour la paix ici à Die. Oui, ce monde va mal, il y a une accélération, c'est un petit peu mon avis, et il va falloir qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse et qu'on se remette un petit peu sur des valeurs humanistes de progrès social, parce que ça va finir en guerre généralisée, et le chacun pour soi a ses limites, et on le voit bien aujourd'hui.
Il y aura cette soirée demain à partir de 17h30 au lycée, puis à la sous-préfecture, avec une proposition de soupe populaire.
Voilà, on va faire une soupe populaire. Il y aura des prises de parole. Il y aura, si le temps nous permet, quelques projections en plein air. Et voilà, et nous, ce qu'on exige tout simplement, c'est que le Conseil constitutionnel se positionne pour empêcher l'application de cette loi. Et on appelle le plus grand nombre à manifester sur le territoire à Die demain pour combattre le racisme, la xénophobie et défendre une politique migratoire d'accueil et de solidarité. Je répète, d'accueil et de solidarité. Je pense que c'est par là qu'on s'en sortira. C'est en étant solidaire et en sortant de l'entre-soi et du chacun pour soi et du nombrilisme, parce que c'est finalement c'est comme ça que on finit par ne connaissant pas les gens qui nous entourent, on finit par faire des amalgames entre un malheureux fait divers. Il faut savoir quand même que la précipitation de Macron et de Darmanin à légiférer sur la loi immigration, elle a été exacerbée par la mort de ce professeur à Arras. Je ne sais plus trop à quelle période c'était, à l'automne dernier, hein. Et ça a été un déclencheur supplémentaire pour essayer de sensibiliser plus fortement l'opinion publique. Voilà, la France est en danger, les terroristes sont partout, surtout quand ils viennent de l'autre bout du monde. Et on fait l'amalgame, je veux dire, ça me rappelle moi la politique de Sarkozy à une époque. Il y avait une femme, une vieille dame qui se faisait arracher son sac à main le soir. Le lendemain matin, à 9h, Sarkozy proposait une loi pour lutter contre la petite délinquance. Bon, on ferait mieux de réfléchir à savoir pourquoi ce gamin, il a piqué le sac à main de la vieille, s'attaquait aux racines au lieu de légiférer des lois. La loi immigration qui nous est proposée, c'est depuis 40 ans, c'est la plus régressive qu'il y a eu, même consentant. On s'intéresse un petit peu au passé avec les lois Pasqua, c'était déjà assez fort. Et là, on est sans commune mesure bien au-delà de ça. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, cette loi, elle convient parfaitement au Rassemblement national. J'ai pas fait l'exercice, mais quelqu'un m'a dit il y a peu de temps que les 3 ou 4 articles qui font le fondement de cette loi, ils sont nommés dans le programme présidentiel de Marine Le Pen il y a 1 an et demi. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Quand la droite ou le centre macronisme, enfin la droite macroniste, flirte avec le Front national, eh ben ça donne ça, quoi. Voilà, ça donne ce qui est en train de se passer en Espagne, ce qui se passe dans d'autres pays en Europe et dans le monde, une droite dure, liberticide et qui place le tapis rouge pour les partis d'extrême droite racistes et xénophobes. Voilà, on arrive à ça.
On ne parlera pas non plus de cette situation qui a eu lieu il y a quelques semaines à Romans, suite au décès d'un jeune, avec une réaction dans l'extrême droite qui ont organisé des manifestations dans cette ville. Voilà, donc même la Drôme, qui est quand même une ville plutôt calme, tranquille, a aussi ses réactionnaires.
Je peux dire un truc là-dessus? Oui, alors par rapport à cette manifestation demain, ce rassemblement, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on a fait marcher les mails, etc. Et on a imprimé quelques affiches qu'on a collées en ville sur les panneaux prévus à cet effet. Et on a fait ça vendredi, et une demi-heure après, on s'est rendu compte que les affiches avaient été arrachées. Alors on en a remis samedi matin, avant le marché, elles ont été aussi arrachées. On en a remis dimanche matin, elles ont aussi été arrachées. Voilà, c'est pour dire que même dans le Diwa, terre d'accueil, de tolérance, eh bien, on n'est pas sur un écosystème complètement en dehors de tout. Des gens qui sont pas d'accord avec nous, bien sûr, il y en a toujours eu, et on les respecte, on essaie de les convaincre. Aujourd'hui, on n'est plus là-dessus. On arrache les affiches de gens qui sont pour le progrès social, qui sont voilà. C'est un petit signe. J'espère que il sera sans suite et qu'on va pouvoir continuer à discuter, même en n'étant pas d'accord. Voilà, ça fait partie de la vie. On n'est pas tous faits de la même façon. On a chacun un peu ses opinions. Mais là, c'est un petit peu nouveau, quoi. Moi qui suis dans le Diwa depuis une dizaine d'années, j'avais pas vu ça dans le milieu militant.
Eh bien, pour en savoir plus, j'invite aussi les auditeurs à se rendre sur le site voilibredrome.wordpress.com. Là, vous serez mis au courant des actions qui seront menées prochainement. Nicolas, d'autres informations très locales
Pour le moment, c'est tout. On reviendra vous voir pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu fin janvier concernant le sionisme. On fait venir un artiste qui va faire une conférence gesticulée pour expliquer. Alors c'est un dialogue entre le père et son fils pour expliquer ce que c'est que le sionisme, ce que c'est que l'antisémitisme, etc. C'est assez intéressant. Je voulais simplement finir en disant que les organisateurs de cet événement, c'était Voix Libre Drôme, voilà, qui sont à Saillant et Vercheny. Val-de-Drôme accueille réfugiés, la CIMAD, qui est une structure nationale mais avec des représentants locaux, la TRAM, qui est à Die, qui est une jeune association de 2 ans, Exilés et Crétois, qui sont à Cré, et Solidarloc. Voilà. Eh bien, on vous dit donc à demain, venez nombreux, et puis on va gagner.
Venez couverts, hein.
Merci Yves, et à bientôt.
Bonne journée, bonne soirée.
Bonne fin de journée, au revoir.
Je me tourne vers Sébastien, bonjour.
Salut.
Sébastien, toi tu fais partie de la Confédération Nationale du Travail et tu es ici au nom de ce syndicat pour venir aussi amener cette participation à cette manifestation qui aura lieu demain.
Voilà, oui, je serai là, j'espère avec un ou deux autres camarades venus de la vallée. Oui, donc je suis au syndicat des travailleurs, travailleuses et précaires de la Drôme, c'est un des 4 syndicats de l'union locale de la CNT 26. Et effectivement, on est aussi vent debout contre cette loi. On n'est pas tellement surpris parce qu'en fait, il se fait que c'est la 117e loi qui concerne l'immigration sous divers aspects, sur les 50 dernières années. C'est-à-dire, en gros, ils nous en pondent une tous les deux ans, c'est complètement fou, sauf que là, on a vraiment passé un palier. Et où, en fait, le leitmotiv de cette loi, c'est la préférence nationale. Et c'est pour ça que le RN l'a salué, voté, qu'il y a dedans des dispositions qui ne sont probablement pas constitutionnelles, ça on verra ce qui va se passer, mais que la première ministre Borne, ça ne l'a pas empêché d'encourager ses troupes à voter un texte dont ils savent bien qu'à plusieurs égards, il pourrait être inconstitutionnel. Et là, disons que il ne s'agit pas que des travailleurs, disons, sans papier. En fait, c'est tous les travailleurs étrangers hors CE. Ils peuvent être là depuis plusieurs années, pour autant qu'ils n'atteignent pas le quota de fiches de paye réclamé par la loi, et ben, ou le temps de présence sur le sol français. Et ben, ils se feront refuser, par exemple, les APL. Mais ça, c'est une précarisation, mais juste énorme. Parce que tout à coup, c'est 200, 300 balles qui foutent le camp hors du budget. Et ça va plonger dans la difficulté des familles. Et nous, on le voit bien à la CNT 26, parce qu'on a des contacts avec pas mal de travailleurs qui n'ont pas la nationalité française, qui travaillent dans diverses boîtes de Montélimar, de L'Oriol, qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, qui n'ont pas de papier français, qui ont simplement des cartes de séjour, qui ne sont pas tous là depuis très longtemps. Hein. Certains, bon, ça devrait aller parce qu'ils sont là depuis une dizaine d'années, un peu moins que la durée de leur carte de séjour, mais pour d'autres, ça va poser d'énormes problèmes. Et bon, ces gens avec qui on est en contact, on essaie de commencer à voir ce que ça va pouvoir donner pour eux.
Justement, étant au contact avec ces travailleurs immigrés ou émigrants, est-ce qu'il y a une inquiétude réelle et est-ce que vous vous préparez à contrecarrer cette loi ou qu'est-ce voilà. qui est possible pour vous
Ce qui est possible, c'est de se joindre à toutes les manifs où qu'elles aient lieu. Il semblerait qu'il y ait des tractations au niveau de ce qu'on appelle l'intersyndicale des 8, c'est-à-dire celle qui avait, j'oserais pas dire menée, parce que franchement, c'est un peu pitoyable leur grève perlée, mais la grève contre le mouvement social contre la réforme des retraites, donc la CGT, CFDT, FO, voilà, les 8 grandes centrales syndicales auxquelles s'étaient ajoutées, je crois, 3 organisations lycéennes aussi. Pas dès le début, mais 2-3 semaines après. Et il semblerait qu'ils soient prêts à organiser quelque chose aussi là, un peu rentrer dans la bataille. Mais bon, on n'a pas les mêmes. on se bat pas tout à fait sur les mêmes lignes qu'eux. Mais bon, s'il y a des manifs syndicales, on y sera aussi, hein, sur Valence ou Montélimar.
Je reviens justement sur la question posée à Nicolas sur cette loi immigration qui n'est pas constitutionnelle apparemment, puisque même le président l'admettait, d'où cette consultation auprès du Conseil pour valider ou non les articles présentés. Est-ce que il y a aussi cette prise de conscience du pouvoir exécutif sur l'illégalité même de ces constitutions de loi? Est-ce que c'est un passage en force avec le respect de la Constitution française?
Alors,
est-ce que c'est un déni quelque part?
S'il faut essayer d'analyser ce qui s'est passé, moi je pense que le sujet de l'immigration, déjà, c'est toujours le grand sujet bouc émissaire pour détourner les regards d'autres problèmes. Sachant que en soi, l'immigration n'est pas un problème. Mais il est présenté comme ça. Moi, je pense qu'ils ont vraiment voulu, plus qu'une loi, c'est trouver une majorité. C'est pouvoir montrer que même des textes dits difficiles, ils étaient capables de les faire passer. Sauf que là, évidemment, ils se sont trouvés à faire passer non seulement avec les Républicains, mais avec le Rassemblement National. Et il y a une sorte de convergence fasciste qui se met en place, mais qu'on voit aussi dans d'autres... dans d'autres secteurs, hein, quand on voit le service national universel, le vocabulaire employé par Macron de réarmement de la société, Peut-être que certains l'ont oublié ou ne l'ont pas vu, mais quelques semaines avant le discours où Macron parle de réarmement, l'ancien numéro 2 de l'armée française...
Qui avait démissionné, je crois.
Ouais, qui était en retraite, lui, je crois que ça y est, il est en retraite. Donc général, je ne sais plus comment, pardonnez-moi de ne pas avoir, me souvenir de son nom. Eh ben, le gars avait aussi parlé de réarmement. En employant le même mot, dans le même contexte, de réarmement de la société. Et ça, c'était 4 à 5 semaines avant le discours de Macron. Et c'est quand même hallucinant de voir un général quasi putschiste, parce qu'il était un des signataires de la fameuse tribune il y a quelques mois, là, sur le... Je ne sais plus trop ce qu'il est tracassé, mais carrément, ouais, sur la... Je pense que c'était suite aux émeutes dans les banlieues. Enfin, il y avait eu un texte complètement délirant. Mais il était un des signataires de cette tribune. Et il parle de réarmement dans une tribune encore dans le Figaro. Et 4 ou 5 semaines après, Macron embraye en utilisant le même vocabulaire. C'est un vocabulaire, mais typiquement d'extrême droite. Moi, je pense aussi à tous ces jeunes exilés dont on en connaît beaucoup là dans le Diwa. J'en ai avec mon épouse, on en est hébergé à la maison. Et ben, évidemment, on s'inquiète pour lui, quoi, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est là. Il travaille en intérim et voilà, ben, les OQTF vont être accélérés, les délais de rétention dans les CRA augmentés, les CRA, les centres de rétention administrative, les conditions d'accès aux aides, non, je parlais tout à l'heure des APL, mais aussi les aides de la CAF, donc les allocations familiales. Tout ça, il va y avoir des barrages énormes sous prétexte que n'ayant pas la bonne nationalité,
ouais.
Sachant aussi, on peut rajouter encore le fait que le fait de ne pas avoir de papier devienne un délit pénal. Ça, c'est hallucinant. C'est-à-dire, vous arrivez, vous demandez des papiers, on ne vous les donne pas, hop, vous êtes en délit.
Voilà, et c'est aussi justement, on en parlait avec Nicolas, de cet aspect de cette loi qui mettrait dans l'illégalité des personnes qui sont actuellement dans la légalité, dues au renouvellement de documents ou de papiers, qui les mettrait justement au bord de la route, en quelque sorte.
C'est la fabrique de la délinquance, et puis bon, qu'est-ce qui vont devenir ces gens qui vont se voir barrés dans leur démarche administrative Enfin, ça va aussi ouvrir des brèches aux violences d'extrême droite. Hein. Ça, c'est clair. Les tarés, là, ils sont prêts. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi.
On a pu s'en rendre compte récemment à Romans.
Oui. D'ailleurs, leur expédition a assez mal tourné. Et on peut souhaiter que toutes leurs expés tournent aussi mal que celle-là. Mais là, par exemple, il y a quelque temps, c'est hier... Il y a eu avant-hier une tentative d'incendie, enfin une tentative, non, un incendie d'une mosquée avec de l'essence, filmé par une caméra de surveillance, par un individu bien masqué. Ben voilà, ce genre de loi permet, enfin, lâche la bride à ce genre de force, quoi. Et c'est. Ça, c'est inévitable.
D'ailleurs, c'est une question que je me pose aussi par rapport au flux des migrants passant, par exemple, par... comment ça s'appelle ?
Par les Alpes.
Par les Alpes, au travers de l'Italie. Ouais. Justement, avec l'avènement de l'extrême droite au pouvoir, est-ce que ça a beaucoup modifié ce flux ? Ça a posé de gros problèmes ?
Il y a un peu deux choses. Pour avoir vraiment une politique qu'on pourrait qualifier de nazie ou de fasciste, ça c'est un avis perso, hein. Mais je pense que ça doit d'abord passer par la rue. C'est ce qui s'est passé avec Mussolini et la marche sur Rome. C'est ce qui s'est passé dans les années, dès les années 20, enfin les années 20 avec les sections d'assaut en Allemagne. Et à contrario, quand on voit Meloni qui est d'extrême droite, hein, en fait, elle a dû aussi en passer par la régularisation de 400 000 sans-papiers. Donc le danger, pour le moment, il n'est pas spécialement dans l'extrême droite qui arrive au pouvoir, parce que d'autant plus qu'elle devient absolument identifiable par plein de gens, et que même si ça ouvre des vannes, ça mobilise des forces. Mais par contre, ces forces mobilisées, elles sont moins nombreuses quand ce genre de décision vient de ce qu'on appelle les... aujourd'hui, ben, les démocraties libérales, les libéralistes libéraux autoritaires. Et ceux-là, ils font moins bien figure d'épouvantail, et la mobilisation contre eux est potentiellement plus faible. Et le problème, c'est que c'est dans tous les pays d'Europe qui sont engagés comme ça. En Angleterre, ils s'apprêtent à construire des bateaux-prisons, en fait. Comme ça, les exilés arrivent et sont en mer, sont maintenus en mer. Ils ne mettent pas un pied sur l'Angleterre. D'ailleurs, l'idée de mettre le pied sur le sol, ça me fait penser qu'il va y avoir aussi dans la loi des modifications de la perception du droit du sol. C'est-à-dire qu'elle va être le droit du sol va être restreint, notamment en ce qui concerne les enfants nés de parents étrangers, etc. Il va y avoir aussi des restrictions à ce niveau-là. Là, c'est gravissime, quoi.
Oui, vraiment. Parce que si j'ai bien compris, ces enfants se retrouveront à leur majorité considérés comme non français.
Alors, ils devront faire une demande explicite.
Ils devront faire une demande, mais voilà. En même temps, ils se retrouvent dans un statut d'étranger alors ouais. qu'ils ont vécu toute leur vie en France. Ouais. Et donc, c'est aussi un grave problème. Hein. C'est une aberration.
Ah ben là, ça ressemble très fort. Aux premières lois de stigmatisation des étrangers dans le régime nazi, quoi. C'est-à-dire,
et même en France.
Où en fait le droit du sang était porté préférentiellement par rapport au droit du sol. Et nous, le droit du sol, il a longtemps été dans à des piliers de la politique d'accueil. Et aujourd'hui, ben là, dans cette loi-là, il est bien attaqué. Ça pourrait être d'ailleurs une des dispositions qui pourrait sauter, à mon avis, au Conseil constitutionnel. Mais quand on voit que le Conseil constitutionnel, c'est les grands bourgeois comme... exactement les mêmes grands bourgeois que ceux qui votent les lois.
Oui,
parce qu'ils n'ont rien de constitutionnel, en fait, ces gens-là. C'est juste des gens qui ont fait une carrière politique. Je crois qu'il y a une magistrate professionnelle, mais le reste, c'est des politicards.
Oui, ce sont des gens qui sont en fin de carrière.
Ils sont en fin de carrière, ils sont dans un placard doré, ils ne sont pas spécialement à même de mesurer toutes les subtilités du truc.
Ceci dit, il y a eu des remarques de M. Fabius, le président du Conseil constitutionnel, au niveau des vœux du président de la République, et a bien fait remarquer que cette loi n'était pas du tout tolérable pour le Conseil constitutionnel, dans la démarche même, puisque les propositions et les articles sont sciemment proposés dans cette loi, en sachant qu'elle était anticonstitutionnelle. Ouais, voilà.
Si la chose est aussi évidente, alors là, l'aspect stratégique de Macron, il devient hyper net. C'était d'absolument faire voter une loi, éventuellement rejeter la faute sur cette vilaine constitution qui ne permet pas d'être aussi souple qu'on le voudrait. Et le fait d'avoir... ça fait un moment qu'ils font leur politique avec le RN. Hein. Ça fait un moment. Oui. Il y a eu plein de votes... avec le RN. Mais c'est vraiment le sommet.
Avec
quoi.
Cet indice de réhabiliter le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre.
Oui, il y a eu Pétain, voilà. il y a eu un truc avec Céline aussi. C'est dans une certaine continuité quand même. Hein, c'est les libéraux autoritaires. Quoi. De toute façon, la bourgeoisie a toujours préféré... ça se disait déjà en 1936, hein. Hitler plutôt que le Front populaire. La bourgeoisie, elle a toujours préféré le fascisme à la gauche, au sens large. Parce qu'en fait, le fascisme défend les idées du patronat, défend les intérêts du patronat, défend les intérêts de la classe supérieure. Malgré tout leur discours populo, la partie populo de leur discours, ce qui s'intéresse à l'avenir du peuple... Hein, eh ben, elle disparaît avec les sections d'assaut dans la nuit de cristal, et c'est tout. Qui étaient des sauvages, hein, mais qui étaient la partie populaire. Et ils sont remplacés par les SS. La politique, elle est clairement une politique bourgeoise, quoi, en fait, dans le fascisme. Donc ils s'entendent.
Sébastien, demain, 16 janvier, tu seras présent à cette manif.
Oui.
Est-ce qu'il y aura une représentation du CNT présent ?
De la CNT, oui.
De la CNT.
J'espère que des potes monteront.
Il y aura une prise de parole, je pense, de toutes les organisations présentes à ce moment-là.
Oui, il va falloir qu'on prépare un texte, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas aussi d'écouter, parce que je trouve que Les lycéens, c'est quand même... Je les laisse au cœur du truc, quoi, parce que ça part de leur lycée. Ils seront mobilisés. Je l'ai déjà vu se mobiliser là, il y a une dizaine de jours. Et ils font un super boulot. Et puis bravo à eux, quoi.
Sébastien, merci en tout cas d'être venu.
Avec plaisir.
Au plaisir de te retrouver prochainement pour annoncer de des nouvelles du CNT, notamment.
De la CNT. La Confédération.
De la CNT.
Oui, il y aura bientôt peut-être bien des infos à donner pour les travailleurs, les travailleuses d'Iwaz. Voilà.
Bonne soirée à toi.
Bonne soirée Yves, à la
au
prochaine.
Ouais.
Hey, the bird.
L'interview du jour.